Octobre 2021, Moncton, en Acadie, au Nouveau-Brunswick, non loin de l'océan Atlantique, pour la 5e édition du FISPA. Marie-Thérèse Landry, c'est vous qui en avez eu l'idée au départ de ce FISPA, vous en êtes directrice, alors dites-nous un petit peu ce qui se cache derrière cet étonnant acronyme. Le FISPA, qu'est-ce que c'est?
Alors c'est le Festival international de slam poésie en Acadie, qui en est à sa 5e édition, la première ayant lieu de mémoire en novembre 2017. À la suite d'une rencontre avec deux jeunes slameurs à Antananarivo, au sommet de la francophonie, au forum de la caravane des Dimo, deux jeunes, dont un fait aujourd'hui partie de notre programmation, Aziz Sitenka.
Et alors, qu'est-ce qu'on a pu entendre lors de ce FISPA 2021?
Ah là là, il y avait beaucoup d'artistes. On essayait de faire honneur à la France. Alors, cette fois-ci, on avait une cinquantaine d'artistes. La presque majorité en mode présentiel. Puis, par la suite, les autres provenant du Canada français et du Québec, notamment, puis plusieurs d'Acadie aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on a vu lors de cette édition du FISPA? Des ateliers?
On a eu plusieurs ateliers. Nous, ici, on est une province bilingue. Alors, j'avais idée d'inviter un ou deux artistes anglophones, autochtones. J'ai eu la chance d'accueillir Mark Ellis Smith, le père du mouvement slam. Puis, il a animé un atelier qui a été fort apprécié par les participants. On a fait aussi deux spectacles payants, dont un avec Zurg Eyopo et Mark Ellis Smith. Puis, un deuxième avec Lem du Québec, puis Jérôme Pinel. Oh là là, champion du monde en 2019. C'est mon coup de cœur, Jérôme.
Tout ça se termine par des joutes, puisque quand même, qui dit slam dit compétition.
Oui, ce soir, c'est la finale, où il y a cinq concurrents qui vont s'affronter, mais c'est un affrontement tout en douceur. La joute fait ressortir le côté ludique, côté contrainte aussi. Les membres du jury sont des gens du public. Alors, il faut qu'ils développent une familiarité avec les thèmes abordés.
Et vous, Marie-Thérèse, vous êtes juste directrice ou parfois vous vous exposez? Est-ce qu'on pourra vous entendre?
Oui, ça m'arrive de déclamer à l'occasion.
Eh bien, j'ai bien le goût d'aller vous entendre ce soir, Marie-Thérèse Landry. Merci, merci beaucoup.
Plaisir. Pour nourrir ma semaine, il me manque du sel de mer à l'estran pour m'y allonger, du thé des bois où m'y promener, des bouchées de saveur en alternance avec mes bouffées de chaleur, quelques viandes froides pour me rafraîchir les humeurs, trois fromages dignes des rois mages, la crème de la crème pour celui que j'aime, un nuage de lait dans le potage avant l'orage, une lune de miel éclairant le ciel, et le temps qu'il faut pour apprécier le bonheur de tout préparer.
Paul Dallaire, nous sommes ici à Moncton, au Canada, au Festival international de slam poésie. J'ai ravi de vous y rencontrer, de vous y écouter. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous êtes arrivé là?
La réponse est très simple. C'est que j'ai fait un peu de slam au Québec, où je me suis classé dans les grandes finales qui ont toutes eu lieu à l'époque à Montréal. J'ai connu le slam en 2007 et j'ai slamé en 2007 avec l'équipe de Québec.
Parce que c'est un sport d'équipe ici au Québec ou au Canada en général?
Oui, les principales villes moyennes du Québec, ont une ligue de slam. L'équipe de Québec s'appelait Slam Cap. Mais c'est sûr qu'à Québec, dans les joutes de slam, c'est individuel. Chacun essaie de gagner la joute.
Et avant de faire du slam, avant 2007, Paul, vous écriviez déjà, vous écriviez de la poésie?
Oui, j'ai commencé à écrire en 1990. Disons, officiellement, je suis devenu poète en 1990.
Qu'est-ce que ça veut dire, je suis devenu poète officiellement?
Parce que avant, j'habitais dans mon Saguenay natal. Puis,
c'est-à-dire près de Chicoutimi?
À Chicoutimi. Puis dans ce Saguenay-là, j'étais plutôt biologiste. Mais déjà, à l'époque, j'avais envie d'écrire des histoires et tout. J'avais griffonné quelques trucs, mais sans plus. Puis ensuite, la vie m'a amené à Trois-Rivières, capitale mondiale du papier. Et là, bien sûr, le papier, la poésie, c'est lié. On n'a pas le choix. Quand on est à Trois-Rivières, ben, on doit s'adonner à la poésie. Pour aussi me mettre à écrire de façon plus fréquente. Puis là, ben, je suis devenu poète.
Et le fait de slammer, ça a beaucoup changé ce que vous écriviez?
Oui, ça a changé un peu, mais pas beaucoup, parce que le premier slam que j'ai fait, c'est un texte que j'avais écrit 6 ans avant que le slam naisse au Québec. Et je m'en allais slammer sans qu'on m'ait informé de ce que c'était le slam. Et là, j'ai appris que c'était carrément une compétition où on nous jetait dans une arène où le public pouvait nous dévorer. Et j'ai sorti ce vieux texte que j'avais écrit et j'ai gagné ma première soirée slam à Québec. Puis c'est comme ça que j'ai dit « Ah, c'est drôle ça », parce que c'est pas un texte qui était nécessairement très apprécié par la grande poésie. Parce que c'est un texte qui rigolait, qui jouait beaucoup avec les onomatopées, avec toutes sortes de trucs. Bref, ça se faisait pas très sérieux.
Paul, est-ce que par hasard vous vous le rappelez?
Je me souviens très peu de mes textes. Parce que, par peut-être lâcheté, j'ai toujours lu mes textes. J'ai toujours aimé l'acte de lire, c'est-à-dire voir les mots arriver sous mes yeux, puis l'obligation de décoder avec le cerveau, puis que ça passe dans la bouche, la langue et tout. Donc, c'est un exercice qui n'est pas facile. Bon, apprendre par cœur est aussi très difficile. Donc, mon premier texte, je me rappelle du début assez bien, là, si on veut. Là,
bon, on va voir le début, peut-être.
Ouais, ben voilà, je vous le dis comme ça, bon... le titre et le début sont les mêmes. C'est « Jeu de pâte en i et patati et non patata », prononcé ici en latin pour donner du ressort. « Jeu de pâte en i et patati et non patata. Gnocchi, ravioli, spaghetti, cannelloni, i, 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 i. Holorime parfait où les i d'ironie riment. » Le texte de « Jeu de pâte en i » réagissait à un de mes collègues jeunes poètes, beaucoup plus jeune que moi, qui lui disait qu'il fallait changer les règles pour critiquer la poésie, puis pour sélectionner, par exemple, des textes qui mériteraient d'être publiés. Et moi, il m'avait dit, « Ah, oh, on pourrait simplement prendre du spaghetti, des pâtes, puis les lancer sur le texte, puis quand les pâtes collent, ben, on publie. Si les pâtes ne collent pas, on ne publie pas. » Et là, moi, j'avais dit, hey, c'est vraiment une bonne idée. Il m'avait dit, ben non, tu sais, c'est vraiment de la foutaise. Puis j'avais dit, ben moi, je t'écris un texte là-dessus, puis on revient avec ça.
Cette 5e édition du FISPA, Festival de Slam, accueillait également un hôte de marque, Mark Ellis Smith, qui est un poète américain, l'inventeur de ce genre, le slam.
Well, the movement actually started in Chicago.
Le mouvement a commencé à Chicago en
1985.
Et j'ai commencé le premier spectacle dans un club de jazz, le Get Me High, où il y avait des lectures poétiques chaque lundi soir. Ce qui a été différent avec moi, c'est que j'ai osé jouer les textes. À l'époque, il y avait un tabou sur l'expression des émotions, si minime soit-elle. Et on a été très critiqué au départ. Dans les milieux de la poésie bien-pensante, on disait, oh, c'est des ivrognes, des acteurs, faut pas faire ça, laissez le texte parler par lui-même, n'essayez pas de l'embellir. Mais au Get Me High,
j'ai commencé le Chicago Poetry Ensemble.
J'ai monté le Jazz Poetry Ensemble de Chicago. Ensuite, au Green Mill, et là j'ai commencé en juillet 1986, je l'ai renommé Uptown Poetry Slam. Et le nom vient de là. Et dans les premiers temps, il y avait toujours un mélange de musique, mais aussi de costumes, un peu de danse. On montrait tout un éventail. Et la Beat Generation avait fait son temps. On était très différents d'eux. J'étais plus proche du mouvement folk des années 50-60. Tout le monde arrivait avec une guitare. La guitare passait de main en main. Ça n'avait pas besoin d'être très abouti. C'était pour tout le monde. La Beat Generation, c'était plus élitiste, plus intellectuel. Il fallait être dans le coup. Ce que je présentais au Green Mill, tout ce qu'on a montré, faisait intervenir toutes sortes de gens, les plombiers, les grands-mères, les concierges, les gens normaux, des artistes qui se consacraient à leur travail. Et les représentations au Green Mill étaient une célébration de ce petit monde. Cette poésie, c'est la vie de Monsieur Tout le Monde. Tu as bien fait un poème, toi. Quand j'ai fait ma demande à ma femme, je voulais que ça passe à la radio. Bon, ils ne m'ont pas laissé faire, hein, mais pendant 35 ans, ça a été les grands-pères, les grands-mères, les notaires. Et le plus important, c'était le jeu. Et jouer, c'est un art.
Did you coin this word slam?
C'est vous qui avez inventé ce mot slam?
Yes, I get that. The story on that is that
we have been very successful. Get Me High, on a eu beaucoup de succès.
The Monday night poetry reading that I started, and that had gotten some press.
Et on a eu un peu de presse. Et puis un jour, une journaliste, Lynn Votish, m'a appelé et m'a dit:
What are you going to call it?
Comment ça s'appelle tout ça?
Moi,
j'avais jamais pensé à trouver un nom particulier. Dans l'instant, je me suis rappelé les parties de bridge avec mes parents. Et puis cette expression, un grand chelem. Et puis j'ai pensé au concours de danse slam où il fallait mettre l'adversaire KO. Parce que dans cette forme de poésie, on peut applaudir, mais si on n'aime pas, on peut siffler et on vire l'artiste de scène. Il y en a beaucoup qui sont arrogants, ils monopolisent la scène. L'écho de ce mot, c'est ça, parfois positif et parfois un mauvais écho. Ça correspond exactement à ce qu'on a fait et le nom a pris, mais ça doit beaucoup au hasard. Et Mark Ellis Smith a accepté de nous livrer l'un des textes auxquels il tient. I'm wearing my father's coat. Je porte le manteau de mon père, dont la traduction française est sur le site de la Danse des mots.
I'm wearing my father's coat. He has died. I didn't like him, but I wear the coat. I'm wearing the coat of my father, who's dead. I didn't like him, but I wear the coat just the same. A younger man stopping me on the street is asked, Where'd you get a coat like that? I answered that it was my father's, who's now gone, passed away. The younger man shuts up. It's not that I'm trying now to be proud of my father. I didn't like him. He was a narrow man. There was more of everything he should have done, more of what he should have tried to understand. The coat fit him well. It fits me now. I didn't love him, but I wear the coat. Most of us show off to one another, fashions of who we are, sometimes buttoned to the neck, sometimes overpriced, sometimes surprising even ourselves in garments we would have never dreamed of wearing. I wear my father's coat. And it seems to me that this is the way the most of us make each other's acquaintance, in coats we have taken to be our own.
Adèle Fontaine, je vous vois ici au Festival international de slam poésie. À Moncton. Vous êtes de Moncton, vous habitez ici?
Oh non, moi je viens de l'Alberta, de Edmonton en Alberta. C'est dans l'ouest canadien, dans les provinces de la prairie.
Et comment êtes-vous arrivée au festival de slam poésie? Autrement dit, qu'est-ce que vous faites ici, Adèle?
Qu'est-ce que je fais ici? Ben, c'est la Marie-Thérèse qui m'a découvert un jour en Alberta où je lisais de la poésie dans un French twist. C'est la poésie albertaine qu'on fait d'habitude en anglais, mais tout à coup, il y avait une partie en français où les francophones étaient invités à faire quelque chose. Moi, mes poésies étaient en anglaise, mais ils m'ont invité quand même. Et là, Marie-Thérèse m'a vu, elle dit, ah ben, tiens. Elle m'a invité à venir. Et c'est pour ça que je suis ici.
Et c'est la première fois que vous participez à un festival de slam?
Absolument la première fois. Je suis absolument bouleversée tous les jours. Je me dis, quelle expérience incroyable de rencontrer des gens qui me bouleversent et qui m'amènent tellement de plaisir. Je me dis, arrête, vis-le, là, sois tranquille, laisse-le entrer en toi. C'est tellement un grand plaisir. Des grands visages, des gens là, qui parlent avec des mots qui nous touchent, qui me font danser en l'intérieur. C'est ça que je fais ici, moi. Je suis venue trouver ma vie que je ne connaissais pas tellement, parce que je n'avais jamais pensé que j'étais poète.
Et maintenant, vous le pensez un peu?
Ben, tu sais, je suis devenue poète à la mort de mon mari. Je ne savais pas. Qu'est-ce que je vais faire avec ce gars-là qui est parti, que j'ai tellement aimé? Et puis, tout d'un coup, j'ai découvert si j'écrivais. Alors, tous les dimanches matins, je sors dehors, puis je trouve des choses à écrire et je lui parle. Et je lui parle de n'importe quoi. Et c'est ça qui m'a lancée dans la poésie. Et encore, tous les dimanches matins, je m'assois, je sors dehors, je m'assois et j'écris. Alors, j'ai facilement 300 poèmes qui sont là. Et c'est ça que je viens faire ici, voir qu'est-ce que ça fait les poètes, plutôt que juste les mettre dans un livre, comment ils les font, comment ils font parler leurs poèmes aux autres. C'est pour ça que je suis venue ici. Ça ne s'écrit pas seulement sur du papier, ça se met dans les airs, les poèmes, ça lance, ça s'en va. Tu dois les laisser aller. Tu ne peux pas les garder.
Est-ce que le fait de venir ici, ça a changé votre façon de faire, de fabriquer, d'inventer des poèmes?
Je pense que j'écrivais déjà des poèmes de la même façon, mais maintenant, je sais, reste avec ton idée du début. Reste avec ton idée. Donne-lui de la vie. Fais-la vivre autrement que cette réalité que tu vois.
Mon nom est Julie Lombé. Je suis la lauréate du prix Parole Urbaine, donc c'est-à-dire que j'ai remporté le prix francophone, belge francophone de littérature slam. Et à partir de ce moment-là, on a une visibilité qui est un peu plus importante dans la francophonie. Et c'est via les publications que je fais sur mes réseaux sociaux qu'une sympathie s'est créée entre Marie-Thérèse et moi-même. Et je me suis retrouvée ici l'année passée en virtuel et cette année-ci en présentiel.
Francophone, vous dites. S'il y a des Flamands, c'est ailleurs que ça se passe.
Exactement. À ce niveau-là, c'est assez scindé. Et c'est vrai que tout ce qui touche la culture est très séparé en termes linguistiques en Belgique. Il y a très peu, finalement, d'institutions à part à Bruxelles qui sont bilingues et qui intègrent à la fois des artistes francophones et des artistes néerlandophones. Et donc, en ce qui me concerne, c'était la partie francophone du pays, donc la partie sud du pays que je représente.
Et puisque c'était une joute, j'imagine que vous avez passé un certain nombre d'échelons.
Oui, tout à fait.
Et chaque fois, il faut être qualifié, donc.
Exactement. Des qualifications, une demi-finale et puis une finale. Ouais.
Et est-ce que vous aviez, au départ, en visant une possible réussite, est-ce que vous aviez hiérarchisé tous les textes en vous disant « je vais mettre celui-là d'abord et puis après, ça sera peut-être plus difficile, donc celui-là, etc. » Comment vous avez négocié cet empilement?
C'était assez naïf. Je ne suis pas une slameuse qui a 50 ans d'expérience. J'ai commencé il y a 5 ans le slam. Et donc, je l'ai fait chaque fois en me disant « si je passe déjà le tour suivant, ce sera bien ». Donc, chaque fois, j'ai fait mes deux meilleurs textes du moment. Il n'y avait pas de stratégie particulière. C'était déjà tellement la joie de passer le tour suivant que vite, je rédigeais des textes que j'allais expérimenter sur les scènes, dans les micros ouverts régionaux. Et puis après, voilà, en les parkerisant pour la finale. Mais là, c'est un exercice, la parkerisation, que je ne fais plus pour le moment.
La parkerisation, dites-vous?
Oui, c'est le fait d'apprendre par cœur son texte.
Ah, la parkerisation.
Parkerisation, exactement.
Voilà un joli mot que je ne connaissais pas.
Ah, c'est surtout les artistes sénégalais, Côte d'Ivoire, enfin plutôt l'Afrique de l'Ouest qui utilisent le mot parkerisé.
Et alors, pour revenir donc à cette session en Belgique, dont vous êtes sortie victorieuse, il y a un certain nombre de textes que vous avez écrits entre deux épreuves, ou bien ils dataient tous d'un petit peu avant ?
Non, ils étaient tous assez récents, en fait, tous assez récents, assez connectés à l'actualité, ou en tout cas à ce que moi je ressentais dans mon ventre être mon actualité du moment.
Et ce que vous avez donné ici à Moncton ?
C'est-à-dire le premier que j'ai fait ici à Moncton était le dernier finalement que j'ai créé. Pour les autres, c'est plutôt des textes qui sont retravaillés. Et comme ils touchent chaque fois l'actualité, ben, on est obligé finalement, même si la base reste la même, de reprendre des exemples plus contemporains, qui parlent plus à l'actualité du moment. Dans celui que je vais faire ce soir en finale de la joute, il y a par exemple un texte sur le cyberharcèlement et le harcèlement qui est fait envers les femmes, en particulier sur les réseaux sociaux et sur Internet. Des exemples que je prenais il y a 2-3 ans, mais ne sont plus d'actualité maintenant. Et donc, on est obligé de se recalquer sur l'actualité pour pouvoir donner des exemples un peu plus pertinents.
Alors, maintenant qu'on sait tout ça, Julie, est-ce que vous accepteriez très rapidement de nous en faire un ?
Donc voilà, celui-ci, c'est un texte qui avait été créé l'année passée pour la clôture du festival, justement, de la 4e édition. Il est donc un peu plus court qu'un slam. Il y a des voyages qu'on fait tout seul, d'autres qu'on fait à deux. Il y a des voyages qu'on aurait voulu faire et le voyage qu'on fera tous une dernière fois. Il y a des voyages qu'on fait assis, immobiles, qu'on fait à 100, indociles, qu'on fait à 1000. Ce festival en est un. J'ai été par vous et par mots comme par monts et par veaux dans les montagnes du Jura, de Berne et de l'Atlas, une map-monde qui tourne comme une langue, cette fois dans la bouche, langue de feu, langue de flot, dont on parcourt les mots comme on traverse les océans. On nage, on vogue de aile à île, entre les îles de Madagascar à Haïti, titubant, ivre de joie, on se cogne sur un bon mot, mais on se relève parce qu'on a un beau voyage à faire. Et puisqu'il n'y a pas d'avion cette année, on marche, on trotte, on trottine, on court, on galope, on va d'un pas léger ou d'un pas lourd qui s'enfonce dans le sable du Sahel. Et on veut se laisser avaler tout entier, paupières lourdes, par les compteurs de Ouaga, de Yaoundé, de Dakar. Voyez l'hécatombe du Niger au Tchad, dont tombe sous le charme. Mais on se relève parce qu'on a un beau voyage à faire. Alors on s'élève, on vole avec une plume, vers la lune, on chevauche les nuages, dont les couleurs sont autant d'émotions. Palette de gris de Bruxelles, de neige de Moncton, de bleu de Kinshasa, de rouge de Guinée, de beige du Mali. Un tableau comme une nation arc-en-ciel. On explore la carte des expressions avec des oreilles d'enfant, et puis celle des accents turbulents qui chantent, qui pleurent, qui rient, qui claquent et vous mettent KO. Mais on se relève parce qu'on a un beau voyage à faire. Et tout seul, derrière nos écrans, sans visage de poète, sans visa, on fait le voyage assis, immobile, à 100, à docile, à 1000.
Merci encore Paul Dallaire, Marc Ellie Smith, Adèle Fontaine, Julie Lombet et l'organisatrice Marie-Thérèse Landry qui nous donnaient quelques échos de ce 5e FISPA, le Festival international de slam poésie en Acadie.